CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous dans ce MAG où aujourd'hui on vous proposera une conférence pour ce samedi à Parisot, une conférence autour des soins traditionnels dans nos campagnes sur une invitation de l'association Rencontre et Partage. Christian-Pierre Bédel, historien occitaniste, nous donne rendez-vous samedi donc à 20h30 à Parisot et juste après la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorges de l'Aveyron et sa coordinatrice Marion Cosson. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman. Tony Hogan m'a payé un ice cream soda avant de me piquer ma main et une bande dessinée intitulée « Ces jours qui disparaissent ». Commençons par « Tony Hogan m'a payé un ice cream soda avant de me piquer ma main ». Ce roman a été écrit par Kerry Hudson en 2013. C'est l'histoire d'une mère dysfonctionnelle et de sa fille, Jenny, dans un milieu social ultra défavorisé. La mère de Jenny est instable et rencontre des hommes pas vraiment fréquentables pour la plupart et violents concernant Tony Hogan. La petite Jenny est ballottée entre l'Écosse et Londres. Avec sa mère, elles vont de HLM en bed and breakfast. Leur quotidien est atypique et leur environnement est violent. Mais on sent entre ces deux personnages un lien fort et l'amour qui les unit transparaît. C'est un roman autobiographique où l'humour de la narratrice aide à supporter la misère qui l'entoure. Pour ce qui est de la bande dessinée, je vous propose de découvrir « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher, paru en 2017. L'histoire de Lubin Marshall qui se rend compte qu'il ne vit qu'un jour sur deux. Il découvre que durant son absence, un autre prend sa place en menant une vie totalement différente de la sienne. Lubin se met en tête de communiquer avec son autre par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps. Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement. Tout au long de l'histoire, le lecteur se demande si c'est bien Lubin qui disparaît ou bien s'il est atteint d'une maladie mentale du type schizophrénie. Ces jours qui disparaissent et Tony Hogan m'a offert un ice cream soda avant de me piquer ma main sont à retrouver dans le réseau des médiathèques du QRGA. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Marion. Toutes les chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques de la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorges de l'Aveyron sont à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Après la musique, dans ce MAC, on se projette à Parisot ce samedi pour une conférence de l'association Rencontre et Partage, une conférence sur les soins traditionnels dans nos campagnes.
Je te montrerai. angine. Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine,
en Tarn-et-Garonne, le MAG.
L'association Rencontre et Partage de Pariso propose une conférence samedi à 20h30 à la salle des fêtes. Une conférence où interviendra l'historien occitaniste Christian Pierre Pédel. Bonjour.
Bonjour.
À propos des soins traditionnels dans nos campagnes. Alors, avant de parler un petit peu du cœur de cette conférence, Christian-Pierre Bédel, donc père de la série Alcanto. Alors voilà, occitaniste. Vous avez été directeur de l'Institut des études occitanes de l'Aveyron. Vous êtes Najaquois d'origine. Vous avez beaucoup fait de recherches sur le patrimoine, sur les chants, sur les récits occitans. Et on en vient là, donc, aux soins traditionnels dans nos campagnes. Peut-être que ces recherches sont liées.
Oui, alors c'est le titre qui a été choisi là par Rencontre et Partage. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a eu une médecine traditionnelle aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. C'est vrai qu'elle s'est peut-être maintenue plus longtemps en milieu rural qu'en milieu urbain, parce que comme aujourd'hui on assiste à une désertification de l'espace en médecins, de l'espace rural, bien à l'époque les médecins étaient plutôt implantés en milieu urbain, et même si le milieu rural était plus peuplé qu'aujourd'hui, il y avait quand même dans les bourgs, il y avait toujours eu quelques médecins. Enfin bref, souvent dans les masses éloignées, dans les petits villages, ben, on avait recours aux usages qui se transmettaient de génération en génération.
Alors là, on parle de plantes ou de rebouteux ? On parle de quoi ?
Oui, on parle un petit peu de tout. Alors, si vous voulez, les rebouteux, par exemple, moi, dans la conférence telle qu'elle est conçue, je ne vais pas mettre l'accent sur l'aspect rebouteux. C'est quelque chose qui s'est maintenu jusqu'à nos jours, c'est vrai, puisque c'était un savoir qui se transmettait. Bon, d'une part, il s'imposait pour soigner le bétail, il n'y avait pas de vétérinaire à l'époque, et les rebouteux avaient acquis une expérience comme ça de pratique sur les articulations, sur le muscle, etc. Et donc encore aujourd'hui, il existe quelques rebouteux, ils sont beaucoup plus rares, mais auxquels on peut avoir recours occasionnellement. C'est pas le sujet, je l'évoque, ainsi que les magnétiseurs. Hein, il y a toujours eu des magnétiseurs, mais aujourd'hui c'est très à la mode aussi. Il y en a beaucoup, on fait appel. Disons qu'on n'avait pas à l'époque des ostéopathes, etc. Bon, toutes ces professions-là se sont institutionnalisées, mais donc on faisait avec les compétences qu'on avait sur place. Les plantes, oui, les plantes, là aussi, les plantes aujourd'hui sont toujours utilisées, sont toujours d'actualité, mais pas forcément de la même façon et à la même fréquence. Mais elles sont utilisées par la médecine, je dirais, officielle pour certains remèdes, des remèdes contre le cancer à partir de l'IF, par exemple, et tout. Donc il y a toujours eu un recours aux plantes et qui se maintient sous des formes différentes. Et puis après, il y avait des médications un petit peu surprenantes à partir du monde animal, voire du monde minéral. Alors je parlais de ces traditions qui ne sont plus en usage aujourd'hui, mais qui l'ont été jusqu'à une époque relativement récente.
Vous êtes intriguant là, Christian-Pierre Bédel. Vous pouvez nous donner des petits exemples?
Ah ben justement, là c'est c'est des petits secrets à venir découvrir à la conférence. Mais par exemple, bon, alors là, j'ai des choses. Le recours à certains animaux qu'il fallait, je dirais presque sacrifier, pour lutter contre la méningite, pour lutter contre les maladies pulmonaires, des choses comme ça.
Comment vous en êtes, comment vous avez recueilli ces témoignages, ces...
Ben, c'est-à-dire qu'en faisant les opérations à Alcantou, on a fait quand même toutes les communes de l'Aveyron et les enquêtes. Alors, on n'est pas passé dans tous les foyers, mais enfin, on a rencontré beaucoup de gens. Pareil dans Tarn-et-Garonne, une partie du département du Gers, même sur le département du Lot. Et on questionnait les gens, pas forcément sur des choses qu'eux avaient vécues, mais dont leur parlaient les parents, les générations précédentes, ce qui fait que parfois, on a les témoignages du vécu, et parfois on a des témoignages de la tradition orale, mais qui se recoupent énormément, hein, d'un territoire à l'autre, on les retrouve avec des petites variantes. Et donc, vous avez bien fait de poser la question, les plantes, c'est un des aspects les plus connus, les plus fréquents, les plus répandus, mais c'est vrai que le recours aux pierres qui peuvent avoir des pouvoirs pour guérir ou aux animaux, c'est moins connu, en tout cas, ce sont des choses qui sont moins pratiquées, mais comme l'indique l'intitulé de la conférence, enfin, le message envoyé par un contre-partage, certaines de ces pratiques qui peuvent surprendre aujourd'hui faisaient partie de la médecine institutionnelle. On peut remonter jusqu'à Hippocrate et Galien, quoi, jusqu'à l'Antiquité grecque, et également, quand on parle du pouvoir des plantes, ils sont connus depuis l'Antiquité égyptienne, quoi, depuis la Haute Égypte. Donc, il y a une longue continuité qui s'est faite dans certains milieux, peut-être par l'écrit, mais bien souvent par l'oralité, y compris dans les milieux savants de l'époque. Mmh.
C'est pour ça que pour cette série Alcantou, vous avez été obligé de faire le tour des foyers. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette enquête, enquête entre guillemets, hein, des résultats de ces publications que vous avez menées pendant pas mal de temps, je ne saurais pas dire.
Oui, ça s'étale sur une trentaine d'années. Et en fait, on a appliqué des méthodes, je dirais, pour rencontrer les gens qui ont varié un petit peu d'un territoire à l'autre. Parfois, on s'est adressé simplement aux élus des communes pour qu'ils veuillent bien nous mettre en relation avec des gens qui étaient occitanophones. Parce que l'avantage et l'intérêt des enquêtes en occitan, au-delà, moi je suis la première génération malheureusement francisée dans mon histoire familiale. Mon père a appris le français à l'école. Bon, nous, on nous a parlé français tout petit, mais je suis d'après-guerre. Donc là, on était en milieu rural, on a été massivement, ma génération, connue cette situation-là. Mais donc, au-delà de cette langue, de ce besoin de récupérer. Et puis ce besoin aussi de récupérer toute cette mémoire que l'institution scolaire ne nous avait pas transmise. Il y avait cette curiosité, ce besoin-là, ce besoin un peu d'identité. Mais c'était, c'était tout un univers là, qui s'offrait à nous. Et pour cela, les occitanophones nous permettaient, au travers de leurs témoignages, de voir si on avait affaire à des acquisitions récentes, c'est-à-dire avec des termes francisés, des termes, et lorsqu'ils avaient des termes spécifiques originaux en occitan, pour nous c'était une garantie une possibilité supplémentaire, un atout pour considérer qu'on avait affaire vraiment à des faits de tradition orale spécifiques liés au territoire.
Qui couvre un petit peu tous les domaines.
Tout un appartenant, je précise, à un fonds universel, quoi. Mais c'était la réalisation locale de ce fonds universel.
Et on poursuit cette conversation avec Christian-Pierre Pédel, un historien occitaniste, donc à propos de cette conférence sur les soins traditionnels dans nos campagnes qui nous est proposée pour ce samedi à Parisau, juste après la musique.
IFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
De retour dans ce MAG à propos d'une conférence de l'association Rencontre et Partage à Parisot. Ce samedi à 20h30 à la salle des fêtes, une conférence autour des soins traditionnels dans nos campagnes animée par Christian Pierre Bédel. Historien occitaniste, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Vous l'avez un peu précisé, ça. Même si.
Moi, je me suis toujours pensé et vécu comme un franc-comtois de base, quoi, descendant des Gaulois. Mais toi-même en faisant des études secondaires, qui m'ont poursuivi plutôt que je ne les ai poursuivis. Mais bon, voilà, je suis passé quand même dans cette éducation basique, quoi, du français. Et tout à fait à côté de cet univers et de ça. Et ce n'est justement que qui fait partie des générations qui sont devenues majeures en 68, à l'époque on devenait majeur à 21 ans, et où ces idées circulaient, parce que les générations qui nous avaient précédées avaient déjà conscience depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Et bon, j'ai pris conscience à ce moment-là. Alors pendant 15 ans, j'ai travaillé, comme beaucoup de ceux qui ont reçu cette prise de conscience à ce moment-là, dans le cadre purement associatif, bénévole et militant. Et puis j'ai eu la chance après de voir ma démarche, qui intéressait aussi les pouvoirs publics, notamment au moment de la décentralisation, parce que les nouveaux élus locaux obtenaient de nouvelles possibilités, de nouvelles responsabilités, et avaient conscience d'appartenir à un territoire qui avait quand même sa personnalité, son autorité. Donc ma démarche les a intéressés, et ce sont eux qui ont soutenu, que ce soit le conseil départemental du général de Tarn-et-Garonne, celui de l'Aveyron, et y compris dans les autres territoires. La région aussi l'a soutenu, et parfois des territoires plus localisés.
Ce qui vous a permis de faire vraiment le tour de tout, de faire une enquête, hein, une enquête sur la longueur, et puis sur un territoire très vaste, une enquête dans un petit peu tous les domaines qui comprennent l'Occitan. L'Occitan, c'est vaste, c'est plus qu'une langue.
Oui. Alors l'Occitan, c'est une langue, et c'est une langue qui a une grande diversité, parce que on a échappé à une normalisation au travers d'une académie. On a des langues comme l'anglais, par exemple, ne se parle pas de la même manière aux États-Unis qu'en Angleterre, mais les gens se comprennent, bien sûr. Mais on peut avoir des variations. Nous, on a effectivement à l'intérieur de l'espace occitan, avec un système graphique quand même commun, avec un héritage littéraire commun, celui des troubadours, etc. On a des spécificités. Mais voilà, c'est vrai que c'est un domaine riche. Mais pour ma part, ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'intéresser dans les documents en français qui concernent notre histoire, comme aux documents en occitan, puisque notre langue a été utilisée dans l'administration territoriale jusqu'au XVIe siècle. Et puis, sans compter la littérature, qui a eu quand même un prix Nobel en 1904 avec Frédéric Mistral. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors j'ai touché un petit peu à tous les domaines, quoi, mais surtout dans le domaine ethnographique et dans le domaine historique et bien sûr linguistique. Voilà.
D'où les soins traditionnels dans nos campagnes. Alors je reviens là-dessus un petit peu.
Voilà.
Donc, conférence de l'association Rencontre et Partage, samedi à la salle des fêtes de Parisot pour une entrée de 2 euros.
C'est le 14, je crois, la date.
Tout à fait. Et alors moi, je suis désolée, on revient là-dessus un petit peu. Alors les cailloux, les animaux, alors moi je visualise des sangsues. Non, mais donnez-nous un petit quelque chose quand même.
Écoutez, regardez aujourd'hui, je ne suis pas dans les animaux, mais maintenant on a des... alors c'est pas du tout le genre de thérapie de haine, mais on utilise des animaux pour détresser les gens, pour des choses comme ça. Et puis sur les pierres ou des minéraux, il y a bien des gens qui ressentent les vibrations, le magnétisme sur les roches, comme qui vont embrasser les arbres aussi dans le domaine. Donc est-ce que ces choses-là sont du domaine de l'autosuggestion? Moi je prends pas parti sur de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est vrai ou si c'est faux. Je fais simplement un panorama de ce qui existait, de ce qui a perduré, parce que comme vous l'avez compris, j'ai été très fasciné de voir que des choses qui me surprenaient, que je recueillais sur le terrain, remontaient à l'antiquité grecque, qui avait été relayée sans doute par les Arabes et les Juifs qui ont enseigné à l'université de Montpellier vers le 12e et 13e siècle. De voir le cheminement de ces savoirs et cette permanence avec décrochage sur la transmission institutionnelle par rapport à la transmission institutionnelle, bon, c'est important. Mais donc, moi, je propose une sorte d'inventaire qui est loin d'être exhaustif, parce que je pense qu'on pourrait passer, il doit y avoir des volumes très, très conséquents sur le sujet. Et en même temps, c'est une prouesse en évoquant justement l'évolution du rapport de la population en général avec l'évolution de la médecine scientifique, quoi. C'est-à-dire, on peut voir que, par exemple, il y a eu un décrochage dans l'entre-deux-guerres, là, avec l'apparition de la pénicilline, l'apparition des antibiotiques, etc. Donc, et puis peut-être aussi l'organisation du service médical, peut-être plus efficace. Enfin, je ne veux pas. J'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais en fait, ce sont des questions qui se posent, quoi. Mmh. Et c'est intéressant donc de faire un tour d'horizon de tout savoir.
Ce qui sera fait ce samedi à Parizeau. Entrée gratuite pour les adhérents de l'association Rencontre et Partage organisatrice. Sinon, pour les autres, c'est 2 euros. C'est à 20h30. Et c'est avec vous, Christian Pierre Bédel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci d'avoir été avec nous tout au long de ce mag. Ce mag qui sera rediffusé à 17h et à 21h30. Réécoutable à loisir, à volonté, en podcast et sans modération sur le site cfmradio.fr. Là, c'est les enfants.